Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, aujourd'hui sur les ondes de Radio Sainte-Afrique, nous allons donc vous présenter une interview avec Monsieur Ostruy, le président du Centre Régional de Sauvegarde. Bonjour Monsieur Ostruy.
Bonjour et merci de nous accueillir.
Avec plaisir, et avec vous en compagnie, nous avons Caroline qui est stagiaire dans ce centre. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, nous vous recevons par rapport donc à ce qui se passe au sein du centre. Vous étiez venu le 10 février pour nous parler un petit peu du coup de la difficulté que le centre rencontrait.
Effectivement.
Et de l'éventualité, voire même l'officielle fermeture.
Oui, nous avons effectivement fermé pendant quelques mois.
Voilà, donc du coup, qu'est-ce que vous faites dans ce centre de sauvegarde exactement?
Alors déjà, le centre de sauvegarde, on s'occupe essentiellement d'animaux sauvages en difficulté. Ça, c'est notre première mission et on peut dire qu'elle est particulièrement importante puisqu'on reçoit en moyenne 500 animaux par an en provenance de... essentiellement la Lozère, l'Aveyron et le Gard, mais aussi de bien d'autres départements limitrophes. Ça, c'est la principale mission, c'est notre raison d'être. Hein. Sauvegarde de la faune sauvage dans le cadre d'une biodiversité qui en a bien besoin. Et puis ensuite, on a aussi un rôle important, qui est celui d'informer, de conseiller tous les gens qui nous appellent. En gros, je dirais pas loin de 1000 appels depuis le début de l'année pour des gens qui ne savent pas quoi faire lorsqu'ils trouvent un animal en détresse. Puis aussi, notre mission, c'est de recevoir des stagiaires. En 2019, nous en avons reçu 31 au centre de sauvegarde. Ce sont des jeunes qui se spécialisent dans des métiers liés à l'environnement et qui, en général... nous proviennent à partir de la classe de 3e, seconde, jusqu'au BTS, voire licence ou master.
D'accord.
Et puis enfin, notre rôle, c'est aussi d'éduquer, grâce à vous aujourd'hui par exemple, essayer d'informer un petit peu les gens sur non seulement ce qu'on fait, mais ce qu'il faut faire lorsqu'on reçoit ou lorsqu'on trouve un animal en difficulté. Très nombreux sont les gens qui font appel à nous, à la fois pour des conseils, mais aussi souvent pour participer, pour aider, parce que c'est avant tout... l'association fonctionne dans un cadre collectif, et c'est grâce à ceux qui trouvent les animaux, ceux qui nous les apportent, les vétérinaires qui nous aident. Grâce à un gros élan de bénévolat et de générosité que nous pouvons fonctionner.
D'accord. Et depuis quand vous fonctionnez comme cela ?
Alors ce centre, en fait, on l'a créé il y a 30-35 ans, donc c'est quelque chose d'important. C'était bien avant que la plupart des gens se préoccupent de l'environnement. Et puis au fil des ans, il a été construit grâce à des générations de bénévoles ou d'emplois aidés.
Emploi aidé, c'est-à-dire, enfin, c'est allé au moment où ça existait encore.
Oui, effectivement. Je me rappelle les premières fois qu'on a commencé à construire des structures, c'était avec des objecteurs de conscience. Objecteurs de conscience, c'est les gens qui, à l'époque, ne souhaitaient pas faire à l'armée lorsqu'elle était obligatoire et qui se mettaient pendant 2 ans au service d'associations. Après, nous avons eu des générations de TUC, de CES, d'emplois jeunes, et j'en passe, et des centaines.
Vous les avez tous connus.
Ah oui, là, on a, en 30 ans, je crois qu'on a, on a tout passé, on a tout connu.
D'accord. Et comment vous faites pour financer tout cela? Parce que ça demande quand même pas mal d'argent d'entretenir...
C'est bien ça le problème.
Ce domaine-là.
Comme je vous l'ai dit, le bénévolat dans le cadre de notre fonctionnement, c'est en gros 80%. Ceci dit, il y a à peu près 20% de salariat, et ça, c'est incontournable. Parce que, en ce qui me concerne, je ne suis pas Superman, je ne suis pas non plus éternel. Et donc, il faut absolument qu'il y ait des gens qui soient à la fois capables et disponibles pour assurer une part de travail qui soit autre chose que du bénévolat. Et d'autre part, il est important que des gens compétents puissent aussi vivre de ce qu'ils font. Donc à partir de là, comment financer ça? Ça a toujours été très compliqué, je vous le dis. C'est parfois, dans le cadre d'emploi aidé, ça a été pendant 30 ans, ça a été ça. On peut dire que ça a été ça pendant 30 ans. Et depuis 3 ans, on a décidé d'essayer de passer un petit peu à un stade supérieur, comme ça se fait partout en France, c'est-à-dire de faire appel aux collectivités qui ont à la fois une responsabilité vis-à-vis de la faune sauvage, puisque le Code rural dit bien que ce sont les maires qui sont responsables des animaux errants. Alors, ils limitent ça aux chats et aux chiens, mais ce n'est pas suffisant. C'est la faune sauvage aussi, en général. Et donc, à partir de là, dans la mesure où on rend un service qui est un service d'intérêt général à la collectivité, il est normal qu'à la fois l'État, si c'est possible, et la collectivité participent dans une toute petite part, encore une fois, c'est 20%, à cette mission d'intérêt général qui est la nôtre.
D'accord. Et dans les 20% de salariat, c'est quel poste que ces salariés occupent ?
Alors, ces salariés, souvent, ce sont des anciennes stagiaires de l'association, stagiaires, ce sont des anciens stagiaires, des gens qui ont donc des connaissances en matière de faune sauvage, à la fois sur la biologie des animaux, puisque c'est important, lorsqu'on reçoit un animal, de savoir qui il est, comment il se nourrit, et où il peut être relâché lorsqu'on le relâche. Donc il faut quand même des connaissances certaines. Et puis il faut, c'est évident aussi, avoir un petit peu la fibre, on va dire, la fibre environnementale, c'est-à-dire un petit peu la passion des animaux, je le reconnais aussi.
Vous avez depuis 3 ans entrepris des démarches auprès des collectivités, comme vous disiez, vous vous rapprochiez de ces organismes-là. Vous avez fait signer des pétitions.
Alors, effectivement.
Alors, j'ai 3 questions du coup qui se mettent en une seule. C'est est-ce que les choses se sont accélérées du coup au début de l'année ? Si alors, oui, comment et pourquoi ?
Voilà. On peut dire que donc, ces démarches, nous les avons entreprises depuis 3 ans, avec des succès mitigés. C'est-à-dire beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, beaucoup d'élus sont venus nous rencontrer. Mais c'était quand même compliqué et c'était difficile de motiver suffisamment ces collectivités pour qu'elles nous soutiennent et qu'elles nous aident à créer en fait un poste et demi salarié, c'est ce qu'on demande. Et puis ça a traîné un petit peu pendant 3 ans. Vous avez parlé de pétition, nous avons une pétition effectivement qui a tourné sur Internet et que nous avons aussi transporté sous les marchés, dans les villes et les villages. Avec, actuellement, je crois qu'on est à 9500 signatures.
D'accord.
Donc c'est quelque chose de très important.
Ça fait déjà bien élevé, oui.
Et puis, les choses ont traîné jusqu'au mois de février. Et puis, effectivement, ce n'est pas nous qui avons choisi le calendrier, mais il y a des échéances électorales qui se sont approchées. Et comme nous avons beaucoup, beaucoup encore de soutien, y compris de gens qui s'impliquent dans notre activité, nous avons mobilisé toutes ces personnes et puis nous avons entrepris une campagne à la fois de presse importante, grâce aux médias comme vous, et qui nous ont toujours soutenus, je tiens à le signaler, que ce soit la presse écrite ou que ce soit même la télévision ou les radios locales, on a toujours eu une très bon écho et ça nous a beaucoup aidé aussi, puisque ça permet de motiver, d'informer et de mobiliser les gens. Et grâce à toutes ces personnes qui se sont mobilisées, les élus ont fini par prendre conscience que non seulement il y avait notre activité qui était importante, mais qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui finalement étaient un petit peu autour et qui nous soutenaient. Et ça, en période électorale, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et donc les choses se sont, comme par miracle, accélérées au mois de février. C'est pas nous qui avons choisi ces échéances, mais c'est comme ça. Et à partir de là, dont les principales collectivités que nous sollicitions, c'est-à-dire le conseil régional d'une part, le conseil départemental d'autre part, la commune de Millau, la communauté de communes de Millau et la communauté de communes de Sainte-Afrique, on finit par se mettre autour de la table toutes ensemble et une réunion a été organisée à la mairie de Millau. Et là, on nous a dit, bon, ben, écoutez, ça va, on a compris le message, on pense que ce que vous faites, c'est très bien et on va vous aider. Et à partir de là, il y a eu toute une série d'informations dans la presse disant qu'on allait nous aider à assumer le fonctionnement de notre structure avec toute une série de promesses chiffrées. Des promesses chiffrées qui ont été faites, donc ça c'était en gros en février.
Donc on est d'accord, promesse chiffrée, c'est avec un montant proposé pour vous soutenir.
Voilà, exactement. Donc avec une, il faut savoir que c'est ce qu'on demandait nous, c'est d'avoir quelque chose de pérenne. Donc il n'est pas question pour nous tous les ans que ce qu'on obtient soit remis en cause et que finalement on soit obligé tous les ans
de calculer sur vos dépenses.
Donc on demandait l'établissement, comme ça se fait partout ailleurs en France, d'une convention triennale. Pour avoir au moins la garantie d'avoir cette possibilité de fonctionner pendant 3 ans. C'était un minimum.
D'accord. Et la réaction à cette demande,
ça a été... Alors, ça a été positif. C'est-à-dire que l'ensemble des collectivités concernées, que j'ai cité tout à l'heure, nous ont dit « Ok, on va vous donner 38 000 euros par an ». Alors ça, c'est important, c'était des promesses importantes. Et c'est le parc naturel régional qui, à la personne de son directeur adjoint, qui va mettre tout ça en œuvre et qui va coordonner l'ensemble de l'opération. Alors là, ça y est, on s'est dit, c'est super.
Le poste va pouvoir se s'ouvrir, le centre peut être sauvé.
D'autant plus qu'il y a eu donc des promesses écrites, j'ai des promesses signées et tout.
Oui, je vois que vous avez un petit listing là, du coup, qu'est-ce que c'est exactement?
Voilà, ça c'était au mois de février. Et puis, où est-ce qu'on en est maintenant, au moment de septembre? Alors, une partie, on va dire, de tout ce qui avait été promis a pu être mise en œuvre. Par exemple, le conseil régional qui s'était engagé donc pour l'année 2020 à nous financer à hauteur de 10 000 euros, nous lui avons adressé un dossier et effectivement, le conseil régional a délibéré, nous a envoyé un arrêté attributif. Dans ces 10 000 euros, nous sommes certains de les avoir. Ça, c'est la bonne nouvelle.
D'accord.
Le conseil général du département a fait exactement la même chose. C'est-à-dire, nous lui avons envoyé un dossier. Et puis, lui aussi, il a accepté de nous financer pour l'année 2020 à hauteur de 10 000 euros. Pour la suite, les choses se compliquent un petit peu. Nous avons, par exemple, la commune de Millau, qui, elle aussi, s'est engagée, alors là, dans le cadre de 3 ans, un conseil municipal a délibéré. Elle a délibéré en disant « Ok, il faut qu'on finance cette association et sa mission pendant 3 ans, à condition qu'une convention soit mise en œuvre qui définisse ce qu'on fait exactement, les résultats qu'on doit obtenir, ce qui semble tout à fait logique. Et à condition aussi que cette convention soit signée à la fois par la commune de Millau, par la communauté de communes de Millau et par la communauté de communes de Sainte-Afrique. Alors, pour la commune de Millau, l'une des délibérations a été prise en conseil municipal, donc on peut dire que c'est acquis.
D'accord.
Pour la communauté de communes de Millau, une délibération a été, elle aussi, prise en conseil communautaire, donc on peut dire que c'est acquis aussi. Par contre, problème sur la communauté de communes de Sainte-Afrique. Il se trouve que le conseil communautaire en place à l'époque, et parmi lequel son président, dont nous avait fait une promesse de 4 000 euros annuels, n'a pas délibéré avant les échéances électorales.
Alors, comment ça se passe?
Alors, c'est compliqué, parce que finalement, comme cette affaire n'a pas été délibérée, et que le président de la communauté de communes était à la fois monsieur le maire de Sainte-Afrique à l'époque, il faut que le nouveau président de la communauté de communes accepte, lui, de délibérer, de signer éventuellement cette convention pour que nous puissions enfin bénéficier de l'argent qui nous a été promis.
Et oui.
Compliqué.
Donc, chères auditrices, auditeurs, nous allons faire une peu courte pause musicale. Et puis, ne quittez pas les ondes parce que nous allons vite revenir. nous sommes de retour dans le studio, donc toujours avec monsieur Ostruy et Caroline. Donc monsieur Ostruy, donc pour continuer l'interview, vous avez quand même fermé le centre de sauvegarde à partir de février, de fin février.
Alors oui, effectivement, parce que d'une part, nous l'avions annoncé et dit depuis longtemps, tant que nous n'aurions pas un minimum de garantie par rapport aux engagements pris, nous ne pouvions décemment pas embaucher le personnel et donc fonctionner. C'est aussi simple que ça. Mm-hmm. Bon, après, là-dessus, c'est greffé la crise sanitaire. Mais ce qui est certain, c'est que même pendant la crise sanitaire, les gens nous appelaient et nous nous sommes contentés à ce moment-là de traiter les animaux que nous détenions et de les relâcher dans la nature, mais nous n'avons pratiquement jusqu'au 1er juin accueilli aucun animal. Ce que j'attendais, moi, c'était au minimum donc des délibérations et des engagements précis, ce que j'ai eu, puisque je vous les ai expliqués tout à l'heure, sauf pour ce qui concerne la communauté de communes de Sainte-Afrique.
Oui.
Alors là, on a été bien inspirés, parce que finalement, ce n'est pas nous qui avons choisi les échéances électorales pour accélérer notre campagne de mobilisation. Mais à l'occasion de ces élections, nous avons sollicité tous les candidats tête de liste dans chaque ville plus ou moins importante du département. Je pense à Millau, à Sainte-Afrique, mais aussi à Rodez. Et pour savoir ce qu'ils pensaient de notre activité, pour savoir s'ils étaient prêts éventuellement à nous aider, s'ils considéraient que ce qu'on faisait, c'était une bonne chose et pourquoi. Donc ces questionnaires, nous les avons envoyés à toutes les têtes de liste, y compris à Sainte-Afrique. Et il se trouve que le maire actuel, qui à l'époque était candidat, a répondu à ces questionnaires. Il a fait ça dans le cadre d'un document que j'ai sous les yeux, qui est aussi quelque part, qui a été réalisé, si j'ai bien compris, avec Mme Émilie Graal, qui était à ce moment-là pressentie pour être en charge de l'environnement. Alors, ce questionnaire, il est intéressant parce qu'en fait, nous, on s'était contenté de faire court et de demander aux listes de cocher des oui ou des non. Et en ce qui concerne donc Monsieur Tessèdre, ben en fait, il s'est pas contenté de cocher. Il a produit un argumentaire à chaque question.
D'accord.
Et cet argumentaire est très très intéressant et en fait nous convient parfaitement. Et puis, il dit bien que notre activité, c'est quelque chose qui les intéresse. Si je prends, par exemple, une simple question, pensez-vous que le centre de sauvegarde doit perdurer ? C'est aussi simple que ça. La réponse, c'est bien sûr que nous sommes favorables au maintien du service du centre de sauvegarde, d'abord pour ses actions en ce qui concerne les actions en faveur de la biodiversité et de la sauvegarde de l'environnement. Le centre est également un outil important pour les habitants de notre région qui se tournent vers le centre quand ils sont confrontés à la détresse des animaux. Et alors, j'ai tout un panel de questions comme ça. Et c'est très clair, monsieur Tessèdre s'est donc engagé éventuellement à nous soutenir s'il était élu.
Oui, en plus, il a rajouté volontairement les commentaires. Donc, c'est
tout
qu'il
à fait.
Il est vraiment
tout à
impliqué
fait.
Quand même dans le maintien.
Lorsque Monsieur Tessèdre a été élu président de la communauté de communes, je me suis permis de lui adresser un petit courrier pour savoir si éventuellement il allait pouvoir assumer ce qu'il nous avait dit et s'il était d'accord pour le faire. Ce courrier, je l'ai envoyé il y a 3 semaines. Bon, je n'avais pas de réponse, mais comme je voulais quand même... Je me doutais qu'aujourd'hui, on aurait l'occasion de parler de cela et ne pas dire n'importe quoi. Je me suis permis de contacter son secrétariat, qui m'a confirmé que M. Tessèdre était bien sûr disposé à respecter ce qu'il avait écrit et que donc, dans les prochains jours ou prochaines semaines, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les nouveaux élus, ben, il allait donner suite à notre demande de rendez-vous. Donc
d'accord,
ça, c'est la bonne nouvelle.
Une rencontre est envisageable.
Voilà, non seulement une rencontre envisageable, mais il faut qu'elle ait lieu, parce qu'effectivement, à l'état actuel des choses, il faut absolument que la communauté de communes de Sainte-Afrique signe, prenne une délibération, ce qui va permettre d'enclencher la manœuvre et de signer la convention pluriannuelle qui nous permettra de toucher un petit peu d'argent, et ça c'est important parce que les salariés sont là. Nous allons pouvoir les payer encore un petit peu, mais dans quelques mois ça va coincer.
D'accord. Et justement, cette convention pluriannuelle, qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce qu'elle contient ?
Alors, ça, c'est important, parce que lorsque nous avons motivé les élus, entre guillemets, nous avons bien dit que notre mission principale, c'était la sauvegarde des animaux sauvages. Alors ça, les élus disent toujours qu'ils ont beaucoup de mal à financer ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas de ligne budgétaire. Par contre, c'est vrai que même si c'est notre mission principale, il est certain que nous avons finalement toute une série d'actions, comme celle que nous avons aujourd'hui, qui sont des actions importantes. Donc, la convention pluriannuelle qui a été préparée par le parc, avec notre collaboration, bien sûr, précise, par exemple, que dans les principales actuelles, l'activité principale du centre est liée au maintien de la biodiversité, c'est une évidence, et consiste à récupérer, donc ça a été mis en préambule. Au-delà de cette activité, le CRFS est également donné pour objectif, à l'échelle du territoire aveyronnais et secteur limitrophe, sensibiliser le public, diffuser et vulgariser de la connaissance sur la faune sauvage, éduquer et former à la faune sauvage locale les salariés, les stagiaires, les services civiques, les professionnels et le public, être un lieu de recherche sur la faune sauvage, assurer la médiation et l'accompagnement des personnes, particuliers et structures publiques. Donc c'est à partir de ces éléments que la convention est établie et qu'elle détermine à la fois les résultats que nous devons avoir et les comptes rendus que nous devons fournir et les échéances des différents comptes rendus. Il est prévu par ailleurs de créer un comité de pilotage. La difficulté que nous avons donc actuellement par rapport à la mise en œuvre de cette convention, c'est qu'il faut qu'elle soit signée par les trois collectivités concernées pour le moment.
Oui.
Et tant que ça ne sera pas fait, eh bien on est bloqué.
Vous êtes en stand-by. Comment vous fonctionnez là depuis le 1er juin ?
Alors, le premier, on a de la chance parce qu'on a un petit badelaine. Et il faut savoir que notre association reçoit aussi beaucoup de dons. Mmh. Des dons, ça, c'est quelque chose d'important. Et à partir de là, nous avons un petit badelaine qui nous a permis, jusqu'à présent, de financer un salarié, on va dire, à temps complet en permanent. Et puis, pour les périodes de juillet et août, qui sont les périodes très, très chargées au niveau de l'association, des personnes qui, elles, sont en contrat à durée déterminée. Et beaucoup de bénévolat. D'ailleurs, je profite de l'occasion que vous me donnez pour remercier à la fois toutes les personnes qui ont transporté des animaux. On en a plus de 500 depuis le début de l'année, ou 470. Mais aussi toutes les personnes qui sont venues au centre. Hein. Au plus fort de l'action, au mois de juillet août, il y avait en permanence 8 ou 9 personnes au centre. Sans parler de tous ceux qui transportaient les animaux.
Oui, ça fait du monde, effectivement. Après, voilà, le bénévolat ne fait pas tout non plus. Il y a besoin d'avoir des effectifs concrets aussi.
Exactement.
Quels sont les nouveaux objectifs actuels ?
Alors, les objectifs actuels, c'est d'avancer dans la signature de cette convention par le biais de l'obtention d'une délibération de la communauté de communes de Sainte-Afrique, mais ça va au-delà, puisqu'en fait, nous entreprenons aussi des démarches, et ce n'est pas nouveau, vers deux autres collectivités importantes du département et sur lesquelles nous avons une grosse action. Hein. C'est la communauté de communes ou la communauté d'agglomération de Rodez. Alors là, c'est difficile, bien que le député M. Viala soit intervenu directement auprès du président de cette communauté d'agglomération. Nous lui avons écrit depuis plusieurs années, bien des fois, mais visiblement, il ne veut pas nous recevoir. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra que tous nos soutiens se mobilisent et que nous allions le voir nous-mêmes lors d'une réunion plénière à la communauté d'agglo. Mmh. C'est une chose qu'il faudra faire un jour ou l'autre, parce que nous recevons quand même à peu près 20 à 30% des animaux en provenance du secteur de Rodez. Et puis en plus, il y a un lycée agricole de la Roque, qui forme des élèves à des métiers de l'environnement. Et il faut savoir que par rapport à cette communauté d'agglo, nous ne prenons plus les élèves de cette école en stage depuis maintenant 2 ans et demi.
D'accord.
Puisque la communauté ne veut pas nous aider. Et on a le même cas de figure par rapport à la communauté deux communes de Montrance et Rougé. Mmh. Ça aussi, c'est important, parce qu'il y a une maison familiale qui s'appelle Valrance, qui est connue et qui accueille de très nombreux élèves en formation et qui font des stages, soit GPN Protection de la Nature, BTS, voire licence, en matière d'environnement. Et là aussi, nous ne prenons plus d'élèves de cette école depuis maintenant 3 ans. Alors, il faut dire qu'on croule sous les demandes. Tout ça parce que la communauté de communes Montrance-et-Rougier, elle aussi n'a jamais donné suite à nos demandes de rendez-vous. Alors, nous avons écrit dernièrement à Madame Monique Alliès, la nouvelle présidente. Ben, on espère que les choses vont évoluer. Ce que je peux dire, c'est que depuis maintenant 3 ans, des dizaines d'élèves qui nous demandaient les stages ont écrit au président à l'époque de la communauté de communes. Le proviseur de l'école a écrit, des professeurs ont écrit. Il n'empêche que nous n'avons jamais eu des coupes. Alors, c'est quand même dommage, parce que moi, cette année, je connais même des élèves qui, en fait, n'ont pas été à cette école parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de stage, et en particulier chez nous.
D'accord.
Donc, il serait temps que cette communauté de communes...
Du coup, peut-être se déplacer physiquement...
Oui, ça aussi, mais bon, il y a une nouvelle présidente, elle n'est peut-être pas au courant de toutes les démarches que nous avons entreprises avant. C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé un rendez-vous.
Voilà, il faut dire qu'il y a des nouveaux qui prennent le relais et qui n'ont pas envie de faire perdurer.
Donc, si Madame Monique Alliès m'entend, je renouvelle ma demande de rendez-vous.
Donc, auditeurs, auditrices, nous allons refaire une petite pause et puis nous vous reprenons par la suite. Les auditeurs, nous revenons après cette courte pause musicale. Donc, et comme vous parliez, Monsieur Ostruy, des stagiaires, justement, Caroline.
Bonjour.
Bonjour. Donc, à ton tour de nous parler un petit peu de ce que toi, tu vois, ce que tu ressens, comment tu ressens les dires de Monsieur Ostruy.
Alors, du coup, moi, je viens de Haute-Savoie et donc je dois effectuer un stage de 5 semaines. Et j'ai choisi le centre de sauvegarde parce que je m'étais renseignée sur leur site. Et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup de voir nouvelles espèces qu'on a dans ma région. Et en plus de ça, Bah, c'est vrai que je ne m'attendais pas à un centre de sauvegarde avec peu de moyens, on va dire.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est surprenant et je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien, mais c'est vrai que c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas plus d'aide que ça pour eux, quoi.
Très bien. Et du coup, là, tu t'occupes de quoi là-bas au centre ?
Bah là, je vois un peu tout. Je nourris les petits mammifères comme les rapaces. On fait des soins aussi parfois sur les animaux, suivant ce qu'ils ont.
D'accord. Et en tant que stagiaire, qu'est-ce que tu penses des dires de M. Ostruy concernant la participation des communes et que du coup, certains stagiaires ne peuvent pas venir faire leur stage au centre ?
Bah, c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez injuste parce que moi, même dans ma région, c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver des stages. Donc si en plus ils en sont privés à cause des communautés de communes, c'est vrai que ça facilite pas du tout, quoi. Et les stagiaires, tous les centres en ont besoin, je pense. Puis même pour nous, on en a beaucoup besoin de voir plusieurs centres d'expérience, tout ça.
D'accord. Monsieur Ostruy, vous avez un complément par rapport à ce que vient de dire Caroline.
Oui, ben effectivement, je sais que c'est très difficile pour eux de trouver des stages. Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, on est très handicapé parce que dans la mesure où on a une visibilité qui est quand même réduite, alors on est obligé de refuser des stagiaires énormément. On reçoit en gros une centaine de demandes par an.
Oui.
De toute façon, on ne pourrait pas assumer. Et ce qui est certain aussi, c'est que c'est la loi, hein, c'est pas moi qui l'ai faite, mais pour pouvoir accueillir des stagiaires, il faut avoir un salarié. C'est un salarié par stagiaire.
Pour gérer, effectivement, parce qu'il est tuteur.
C'est comme ça. C'est pas moi qui ai fait la loi, c'est comme ça.
Non, mais c'est
donc, à partir du moment où on n'a plus de salariés, il n'y a plus de stagiaires.
C'est ça.
Par rapport aux objectifs.
Est-ce que vous en avez d'autres ?
Oui, alors justement, je crois que c'est important, puisqu'il y en a qui concerne Sainte-Afrique. Nous envisageons de créer avec le collège un partenariat, dans la mesure où nous avons été contactés par une professeure de ce collège, qui souhaite qu'on puisse faire participer un petit peu certaines classes à nos actions en termes de relâcher d'animaux dans la nature. Puisque certains des animaux que nous recevons, je pense en particulier cette année aux hérissons, hein, nous en avons eu plus d'une cinquantaine, nous faisons appel à des particuliers pour les relâcher chez eux, avec leur aide et leur participation. Et donc, cette professeure du collège a imaginé que certaines classes pouvaient s'investir un petit peu et découvrir cette façon de faire, cette stratégie, qui serait mise en œuvre éventuellement dans la région de Sainte-Afrique, puisque nous la pratiquons actuellement sur la région de Millau.
C'est un beau projet éducatif.
Ah, c'est un très beau projet éducatif. Donc, dans les médias, j'ai donc dit à cette professeure que nous étions d'accord sur le principe et qu'on attendait toujours pareil que les choses se mettent en place, que les choses se concrétisent avec toutes les personnes qui sont censées nous soutenir. Et puis, on a un autre projet aussi qui est, nous l'avons fait par le passé, c'est que nous allons accueillir des adultes handicapés d'un CRT, qui est sur Sévérac, et qui vont participer un petit peu à la vie active du centre pendant un jour ou une matinée par semaine. Et ça sera normalement mis en place à partir du mois d'octobre ou au mois de novembre. Là aussi, si les choses évoluent favorablement.
D'accord.
Mais il faut dire que ce genre de demande, là, nous en avons 3, 4, 5 par an. Alors là aussi, tant que notre situation, je vais dire, n'est pas stabilisée, il est évident qu'on ne peut pas répondre de façon politique.
Oui.
On peut avoir un accord de principe.
Et du coup, avec tout ceci, plus les objectifs actuels, comment vous voyez l'avenir maintenant ?
Par rapport à ce que nous étions il y a 3-4 ans, je vois que les choses ont quand même beaucoup évolué. Ça n'a pas été simple, mais grâce au soutien, encore une fois, de très nombreuses personnes et des médias, nous avons avancé. Les collectivités ont pris conscience que quelque part on était incontournables. Et donc l'objectif que nous avions, on n'a jamais été aussi près. Ceci dit, nous demeurons lucides, je vais dire vigilants, puisque comme je viens de le dire, les choses ne sont pas toujours très très simples. Les promesses, j'espère bien qu'elles sont faites pour être tenues et qu'elles le seront. Je le crois. Et donc, pour ce qui nous concerne et pour ce qui me concerne, on est bien entendu décidé à poursuivre l'action que nous avons entrepris depuis 30 ans. Et ce que j'espère surtout, c'est qu'elle va pouvoir se poursuivre encore longtemps, parce que la biodiversité en a malheureusement bien, bien besoin.
Très bien. Mais écoute, monsieur Austruy, je vous remercie. Caroline, merci d'être venue aussi dans nos studios. Bonne écoute et puis merci d'être sur les ondes.
C'est toujours un plaisir de venir chez vous.
Merci monsieur Austruy et bonne journée tout le monde.
Merci.